Ah voilà, les sans-abri quoi. Eh ben ouais, le sans-abri, il y en a de plus en plus. Hein. Mais c'est pas que un ou deux, c'est plein. C'est, ils viennent, voilà, vous n'aurez pas un euro ou deux. Je suis à la rue, j'ai pas mangé, j'ai dormi dehors cette nuit. C'est plein d'anecdotes comme ça quoi.
Bonjour, bonjour, merci de choisir Zoom Zoom Zen, l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'époque et le monde dans lequel on vit, de mettre aussi des mots sur une réflexion qu'on s'est déjà faite comme ça, à soi-même. Le sujet du jour est un peu particulier, je pense, sans trop m'y tromper, ce sera définitivement pas le mot le plus drôle de la semaine, puisqu'il s'agit du concept sans-abrisme, mais penchons-nous quand même dessus, que se cache-t-il derrière cet énième suffixe en isme? Eh bien ça nous est déjà tous arrivé, on est installé en terrasse, entre amis, on marche dans la rue, ou bien on prend le métro, et on tombe sur quelqu'un qui prend la parole, qui nous aborde, pour nous demander de l'aide, quelques pièces, une cigarette, un brin de monnaie ou même un petit truc à la boulangerie. Souvent le discours est le même, rodé, presque joué, et nos réactions, elles, le sont aussi. Un nom de la tête, mine d'impuissance et désolé, on détourne le regard et on repart dans la conversation et dans nos vies. Il peut parfois s'en suivre un débat autour de la table, ouais mais on va pas dire oui à tout le monde, sinon on s'en sort pas, jusqu'au fameux « mais ce serait pas à l'État de gérer ça ». Mais même en politique, le problème ne date pas d'hier. Écoutez le meeting de Jospin en 2002, il y a 23 ans.
Pour aller vers cet objectif, zéro SDF, que certains ont moqué.
Ou Nicolas Sarkozy en meeting en 2006, il y a 19 ans.
Je veux, si je suis élu président de la République, que d'ici à 2 ans, plus personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid.
Mais même jusqu'à Emmanuel Macron, qui en juillet 2017 avait promis qu'il n'y aurait plus personne dans la rue avant la fin de l'année, en parlant lui plus précisément des migrants, ça reste souvent un sujet, une promesse de campagne présidentielle ou de début de mandat, mais finalement la solution une fois au pouvoir semble être un peu plus complexe que ça. Tous les jours, moi je marche dans Paris, pour cette émission d'ailleurs, j'enregistre, je me marre avec des gens croisés au hasard, et j'observe. La dernière fois, je vois cette jeune femme qui vient déposer dans un buisson un énorme sac. Elle le cache, épars, le restaurateur juste en face me dit que chaque soir, elle revient le chercher pour aller passer la nuit quelque part, et ils sont de plus en plus nombreux dans ce cas-là. Alors forcément, quand on a préparé cette émission tous les trois, on s'est dit qu'il serait finalement assez cohérent que le mec qui a une chronique baptisée complètement à la rue soit celui qui présente le sans-abrisme. Zoom Zoom Zen sur la rue, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière.
Et bonjour Florian Guyot.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de l'association Aurore, une association qui accompagne les plus vulnérables vers leur autonomie à travers l'hébergement, le soin et l'insertion professionnelle. Vous avez été aussi conseiller auprès du ministre des Finances et des Comptes Publics, Michel Sapin. Et vous venez de sortir La Fabrique des Précarités, a-t-on abandonné la fraternité, aux éditions Flammarion, un livre dans lequel vous décrivez le phénomène du sans-abrisme. Vous allez tout nous expliquer, mais avant, je vous présente une vraie Parisienne, 100% pur jus, qui a grandi dans le 12e arrondissement, entre le bois de Vincennes et Bastille. Alors la misère dans la rue, ça ne l'effraie pas. Elle est à l'origine des expressions chébrant, comme « baie de bail ».
C'est vrai.
Je suis dans un état proche de l'Ohio.
Et ça, c'est Isabelle Adjani, ça.
Et ça,
et rendons à Isabelle, ce qui lui appartient.
Bien sûr.
Pour moi, c'est la même personne. Et ça, c'est ma passe ultime, ah oui, pour parler d'un titre de Céline Dion, bien sûr.
Pas vous, Quentin.
C'est pas... On m'a soufflé de.
Ah ouais, de la
On m'a soufflé de mettre cet extrait.
Oh là là, j'ai honte.
Ça chante faux, hein.
Oui.
Bonjour Manon Mariani.
Bonjour. Bonjour à tous.
Vous nous avez trouvé une personne à suivre sur les réseaux sociaux.
Oui, un TikToker Kindness. Il est bienveillant, gentil, et il distribue des cadeaux et de l'argent à des personnes dans le besoin.
Et de l'autre côté de la table, le papa de la bande. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Quentin Lui. Bonjour à toutes. Bonjour à tous.
C'est un papa, Cyril, et j'imagine, oui, que vous avez déjà dû répondre ou expliquer à votre fils pourquoi certaines personnes vivent dehors. Qu'est-ce qu'on répond dans ces cas-là ?
C'est toujours un peu compliqué parce que effectivement, j'ai un enfant de qui a presque 5 ans et il me demande, quand quelqu'un nous demande de l'argent, pourquoi on demande de l'argent, ou s'il voit quelqu'un dormir dehors. Et alors quand on demande de l'argent, je lui dis, bah tu sais, il y a des gens qui ont rien, qui ont pas du tout d'argent, qui ont pas de quoi se loger. Donc il faut leur dire, si t'as quelque chose, tu leur donnes. Si t'as rien, tu leur dis, bah oui, effectivement, désolé, j'ai pas sur moi. Et lui expliquer aussi que nous, on a de la chance. Nous, on a de la chance d'avoir une maison, on a de la chance de pouvoir s'acheter une baguette, de pouvoir faire des courses, de pouvoir vivre tranquillement, aisément même. Et donc, c'est un truc d'éducation assez fin parce que c'est vrai que pour un enfant de 4 ans, quelqu'un qui dort dehors, c'est souvent incompréhensible.
De mon côté, je vous emmènerai parler du sans-abrisme dans les rues de Marseille. Vers 17h30, on aura le plaisir de retrouver la comtesse, la vraie Marie de Breuer, qui nous fait le plaisir d'animer le Zoom Zoom Test quand elle a le temps. Et en fin d'émission, Tania Dutel qui viendra ici pour nous faire rire. Une chronique humoristique, son « Moi ce que j'en dis », si on va sur l'appli Radio France, c'est comme ça que ça s'appelle.
Très beau nom.
Personne ici ne l'a jamais appelé comme ça. C'est Tania Dutel qui, au jeu de la loterie des sujets délicats de Zoom Zoom Zen, a une nouvelle fois tiré Cyril Grolot. Mais d'abord, Florian Guyot, vous dites qu'on n'est jamais pauvre seul. On l'est dans une société qui fabrique cette pauvreté. Qui fabrique cette pauvreté? D'où vient ce mécanisme-là?
Ben, ce sont les dysfonctionnements de la société qui fabriquent cette précarité, par opposition à ce qu'on aurait envie de dire, c'est-à-dire que c'est un peu la faute des gens. Ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, c'est qu'on a tendance assez facilement à rendre les gens responsables de leur propre situation en se disant, ben, ils n'ont qu'à se prendre en main, ils n'ont qu'à essayer de trouver un travail, ils n'ont qu'à essayer de se forcer un peu. Et ce mécanisme-là vise à dire, ben, en fait, c'est un peu de leur faute. Donc c'est un premier mécanisme qui est une sorte de dysfonctionnement où on rend les gens responsables de leur propre sort, alors que la cause est beaucoup plus sociétale. On aura l'occasion d'y revenir, j'imagine. Et le deuxième dysfonctionnement, c'est celui des politiques publiques, tout simplement. On a un manque de coordination, on a parfois un manque de moyens. Et puis on a des politiques publiques qui sont souvent construites sur des logiques sécuritaires plutôt que sur des logiques sociales ou médico-sociales. Et en fait, souvent ça coûte cher et c'est relativement inefficace et ça contribue là aussi à fabriquer de la précarité. C'est tout ce que j'essaie d'expliquer avec des parcours de personnes que nous accompagnons dans les centres de l'association Aurore.
Lui, il est très peu dans la rue. D'où le fait qu'il a toujours pensé que SDF signifiait saucisson, dinde et filet de bœuf. Heureusement qu'on fait cette émission, sinon son douce assort aurait eu une autre saveur. Malgré tout, Cyril, vous allez nous dire le sans-abrisme, d'où ça sort.
Il y a d'abord eu clochard, et puis on a parlé de SDF, de sans-domicile fixe, et puis de sans-abri, et donc désormais nous y voilà de sans-abrisme. Retour en arrière. Clochard, ça nous vient du verbe clocher, clocher, qui vient du latin clopicare, qui signifie boiter. Le clochard, c'était ça, c'était le boiteux. Le mot s'est popularisé grâce au marché des Halles, à Paris. Grâce à un coup de cloche, celui qui annonce l'ouverture du marché, et surtout celui de la fermeture. C'est à ce moment-là que les plus démunis viennent se servir de ce qui reste encore sur les étals. Du coup, l'association est vite faite. La cloche, le verbe clocher dont je vous parlais à l'instant, hop, voilà le terme clochard.
Terme qui est ensuite devenu SDF.
Oui, tout le monde l'a compris, ce mot était devenu très péjoratif. Si sans domicile fixe existe depuis le 19e siècle, il n'a en fait été popularisé qu'au milieu des années 90. C'est là qu'il a remplacé clochard. C'était donc avant les sans-abri et le sans-abrisme. Et là, plus qu'un changement de mot, c'est un changement de prisme. Il ne s'agit plus de parler d'une personne, mais d'un système. Et si on a était de définir les gens par leur précarité pour plutôt parler des mécanismes qui les conduisent à dormir dehors. Désormais, on parle d'un phénomène social qui amène une personne à ne plus avoir de toit. Alors, qu'est-ce que le sans-abrisme aujourd'hui? Pourquoi est-il le symbole du recul de la fraternité dans notre pays, mais aussi ailleurs? Qu'est-ce que la fraternité d'ailleurs de nos jours? Comment la transmettre? Est-ce qu'elle est un remède contre le sans-abrisme? C'est ce qu'on va voir, mon cher Quentin, durant une heure.
Merci Cyril. Florian Guyot, ce changement de terminologie, c'est un euphémisme ou ça permet enfin de comprendre ce qui provoque le fait d'être à la rue?
Des terminologies, il y en a plusieurs et elles dénotent toutes quelque chose d'un regard ou d'un contexte qu'on peut porter sur les personnes. Vous avez cité les mots de sans-abri, les mots de clochard. Il y en a d'autres aujourd'hui pour désigner souvent les consommateurs de drogue. On va employer le mot de zombie, par exemple, qui est un mot assez employé aujourd'hui. Et puis, à l'inverse, il y a des mots qui cherchent à atténuer l'expression en situation de, qui est très utilisée dans le jargon un peu social, mais qui laisse entendre qu'il est possible de s'en sortir et donc au final, peut-être que l'État n'est que transitoire. Donc en réalité, des terminologies, il y en a plusieurs, et je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'elles dénotent tout un regard qu'on peut porter sur les personnes.
C'est ça, vous dites, pour désigner les sans-abri, traduisent le regard porté sur des personnes que la société préférerait ne pas avoir. D'où vient ce regard aussi dur, voire même indifférent, sur les pauvres?
Et ben c'est justement la conception qu'on peut avoir des pauvres. Si on regarde un peu dans l'histoire, on retrouve la notion de bon pauvre, celui qui a envie de s'en sortir, celui qui est un peu sympa. Parfois on dit le clochard au coin de la rue. Et puis il y a le mauvais pauvre, l'assisté, celui qui profiterait du système. Et ce regard sur le bon pauvre et le mauvais pauvre, il connote beaucoup de choses de ce qu'on a à dire de la pauvreté, de ce qu'on a à dire des gens. C'est un peu le débat qu'on revoit chaque année à la rentrée de septembre pour savoir si les gens vont utiliser l'allocation de rentrée scolaire à bon escient. Ben voilà, c'est un peu le mauvais pauvre qui utiliserait mal une allocation. Sous-entendu, on sait mieux que les gens comment ils doivent dépenser leur argent. Et donc, il y a un peu un regard porté un peu de haut sur des personnes qui ne mériteraient pas d'être autonomes. Et c'est tout ce regard-là qui fabrique aussi, d'une certaine manière, la prise en charge et la manière dont la société a envie ou pas d'inclure les personnes.
Du coup, si on suit votre raisonnement, il n'y a pas de profil type, entre guillemets, du sans-abri?
Non, si je crois qu'il est important de le dire, si dans les centres d'hébergement que nous gérons, nos travailleurs sociaux vont rencontrer des jeunes qui ont subi un inceste et qui le traînent toute leur vie. Vous rencontrez des femmes victimes de violences qui ont fui leur domicile. Vous rencontrez des jeunes filles qui se prostituent pour plein de raisons. Vous rencontrez des gens qui étaient très insérés, qui ont sombré dans l'alcool. Vous rencontrez des personnes qui ont un handicap qui a été mal soigné ou mal pris en charge. Bref, il y a autant de parcours de personnes qu'il peut y avoir de sans-abri. Et je crois qu'il est important de un peu de déconstruire cette idée de profil type. Je crois qu'il est surtout important de dire que ce sont des personnes et qu'en tant que personnes, elles nécessitent, elles méritent d'être accompagnées avec dignité.
Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lhuy, Cyril Lacarrière sur France Inter.
Zoom sur le sans-abrisme cet après-midi dans Zoom Zoom Zen avec le directeur général de l'association Aurore qui accompagne les plus vulnérables, Florian Guyot. Il y a une donnée importante que vous donnez dans votre livre, c'est qu'un quart des jeunes de moins de 25 ans qui sont aujourd'hui à la rue sont passés par l'aide à l'enfance. Ça dit quoi de notre système? Est-ce qu'il est défaillant?
Sur l'aide sociale à l'enfance en particulier, je crois qu'on a dépassé le stade du diagnostic. Il y a encore un rapport parlementaire qui est paru début avril et qui pointe un certain nombre de dysfonctionnements qui vont de l'organisation aux moyens en passant par la gouvernance. Donc sur l'aide sociale à l'enfance, comme exemple de politique publique, on a un clair exemple de dysfonctionnement qui nécessite d'être pris à bras le corps pour être retravaillé. Ça dit aussi quelque chose de plus général sur ce qui met les personnes en difficulté, c'est la question de la transition d'une institution à une autre. L'aide sociale à l'enfance, c'est géré par les départements. Quand vous êtes mineur, c'est donc les départements qui vous prennent en charge. Quand vous avez 18 ans, vous êtes adulte et là, c'est l'État qui vous prend en charge. C'est une autre institution qui nécessite d'autres organisations, d'autres établissements. Et le passage entre les deux, il n'est pas vraiment géré. Ou en tout cas, pour certains, ça marche et pour d'autres, ça ne marche pas.
Donc on les perd, on perd leurs traces.
Et on perd leurs traces pour certains. Et c'est pour ça que parfois, c'est d'abord la rue et ensuite, à partir de la rue, ils appellent le 115 et ils sont pris en charge. Et donc, c'est tout ce que j'essaye de montrer, c'est le passage d'une institution à une autre. Il y a beaucoup d'autres exemples que celui de l'aide sociale à l'enfance. La sortie de la prison est un changement d'institution. La sortie de la psychiatrie est un changement d'institution. Il y a beaucoup d'exemples de ce type-là qui font que par manque de coordination, on met les gens en difficulté.
Justement, autre chiffre que vous donnez dans votre livre, c'est qu'un tiers des sans-abri souffrent de troubles mentaux. Vous en parliez juste avant. On a parlé ici de l'errance médicale. Est-ce que c'est un facteur qui pousse les gens dans la rue ?
Non. Je vais le dire aussi clairement que ça, même si la réponse nécessite d'être plus élaborée. C'est pas le trouble mental qui pousse les gens dans la rue. C'est leur manque de prise en charge. Nous avons deux exemples là-dessus. Des bailleurs sociaux ont voulu travailler avec nous sur des personnes qui sont en impayés de loyer et qui n'ouvrent plus la porte. Le gardien n'arrive plus à leur parler. On ne sait plus vraiment quoi faire. Nous avons monté une équipe mobile faite de psychologues qui va les voir et qui, avec les méthodes de la psychologie, essaye de renouer le lien, parle aux personnes et on décèle souvent que l'impayé est un symptôme d'un problème de parentalité, d'un problème d'emploi, d'un problème de santé mentale, souvent, et on arrive à dénouer ce lien et la personne reste dans son logement. Donc le problème, ce n'est pas la santé mentale de la personne, le problème c'est est-ce qu'on arrive à l'accompagner, est-ce qu'on arrive à l'aider. Un autre exemple, c'est celui d'un programme qui s'appelle Un chez soi d'abord, qui vient de la longue théorie du logement d'abord, qui vient des États-Unis et qui consiste à dire que plutôt que d'être à la rue, mettons les gens dans des logements directement et voyons comment les accompagner. En France, ce programme, il a été monté avec une focalisation sur des publics avec des troubles de santé mentale importants, notamment des schizophrènes, et ils sont intégrés dans des appartements avec un étayage, avec un accompagnement, et ce qu'on observe au bout d'un certain nombre d'années de retour d'expérience, c'est que 85% tiennent dans leur logement. Donc ça veut dire que même avec des troubles graves, il est possible de vivre dans ce logement. Donc le problème, c'est pas le trouble, le problème, c'est l'accompagnement.
Et là encore, on a le sentiment que ce sont aussi les jeunes les plus touchés dans ces moments-là.
De façon générale, les jeunes sont très sujets aux problématiques de santé mentale. Il y a eu beaucoup d'études après le Covid qui l'ont montré et qui montrent un accroissement sur la part de 15 à 19 ans du nombre de troubles de santé mentale. De mémoire, c'est plus de 200% d'augmentation par rapport à la décennie d'avant sur cette tranche d'âge-là. Et c'est pas une augmentation qu'on voit en population générale. C'est bien les jeunes qui ont pu être affectés. Et donc je dirais que de façon générale, la population jeune est une population fragile et sujette à des troubles de santé mentale. Et donc, derrière, il peut en suivre toutes les conséquences si jamais il n'y a pas d'accompagnement, comme ce que je viens de dire.
Pour terminer ce panorama du sans-abrisme, vous parlez aussi de notre attitude vis-à-vis des étrangers. Vous dites que c'est une question complexe qui recouvre à la fois des choix politiques et des questions de dignité humaine. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Nous avons mené une étude avec 5 autres associations similaires à Aurore pour interroger des étrangers qui vivent en centre d'hébergement. En tout, c'est près de 1000 personnes que nous avons interrogées sur leur situation administrative, les difficultés qu'ils rencontrent, etc. 75% de ceux que nous avons interrogés sont en France depuis plus de 5 ans, 25% depuis plus de 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qu'on laisse attendre des années et des années et des années sans perspective d'intégration. Ils n'ont pas de droit au logement, ils n'ont pas le droit de travailler sauf au travail au noir, dans des conditions parfois proches de l'esclavagisme. Et donc, à force de n'avoir aucune perspective, on finit par devenir fou, on finit par ne plus savoir exactement quel est son avenir, et c'est ça l'indignité. Et donc, tout ce qui est important de faire, c'est de décider. Est-ce que la personne doit être intégrée? Et si oui, on s'en donne les moyens. Est-ce qu'elle doit repartir? Et si oui, on s'en donne les moyens et on le fait. Mais on voit qu'aujourd'hui, on le fait ni l'un ni l'autre et que ça met des personnes en immense difficulté avec la société.
Florent Guillot, je voudrais citer quelque chose que vous dites dans le livre, où vous parlez presque d'une stratégie qu'on peut dire perverse. Je vous cite, d'aucuns diront que plus on donne à voir de mauvaises conditions d'accueil avec un risque non négligeable de se retrouver à la rue, moins les personnes seront tentées de fuir leur pays pour venir jusqu'à nous. C'est vraiment sciemment qu'il y a une politique publique pour laisser les gens dans la rue ?
C'est la théorie de l'appel d'air, c'est-à-dire cette croyance que si on va bien accueillir les gens, alors on va être submergé par tout un flux de personnes qui vont venir. Et donc, en gros, que la décision de partir de son pays serait gouvernée par le fait que on va trouver telle et telle aide, on va pouvoir bénéficier de telle ou telle condition de prise en charge.
C'est faux, ça. On le sait maintenant.
Écoutez, j'ai échangé avec des gens que nous accompagnons. J'ai en tête très bien une femme qui m'a raconté son parcours, un parcours qui a été fait de différentes tortures, de différents sévices, et qui, à la fin de son discours, me dit « Aucune femme au monde n'a été violée plus que moi ». Quand on part de chez soi et qu'on sait ce qui va arriver, est-ce que vraiment c'est parce qu'il y aurait telle ou telle aide au bout du compte qui vient? Non, on part parce qu'on n'a pas le choix, on part parce que c'est une question de survie. On va pas souffrir tous ces sévices en se disant qu'au fond c'est pas grave, ça n'est pas vrai. J'ai vu une femme qui n'a pas vu son fils depuis 14 ans parce que elle a dû partir, elle n'avait pas le choix que de partir et de tout laisser derrière. Et donc ce sont des parcours de vie tragiques, l'appel d'air n'a rien à voir avec ça.
Lui, la rue, c'est son domaine.
Oui, je suis né dans la rue. Oui, je suis né dans la rue. Dans la rue.
Dans la rue. Il aurait pu écrire les paroles de cette chanson de Johnny, « Je suis né dans la rue » et Quentin, c'est justement dans les rues, celle de Marseille, que vous êtes allé discuter de sans-abrisme.
Et je sors du train de 9h24, la gare Saint-Charles de Marseille vit au rythme de ce mois d'avril qui offre vacances et week-ends prolongés. Je remonte la rue d'Aix quand ce monsieur me fait signe.
Bonjour.
Pourquoi vous m'avez arrêté ?
Ben, je vous ai arrêté parce que je vous ai vu avec le micro. Vous avez des choses à dire?
On est à Marseille, là.
Ouais, ben, moi, je suis né sur Marseille. Je suis un vrai Marseillais. Hein.
Et je fais la connaissance de Rachid, commerçant, qui découvre notre mot du jour.
Le sans-abrisme. Ouais.
C'est un mot qui parle des sans-abri.
Ah, voilà. Les sans-abri, quoi. Ben ouais, le sans-abri, il y en a de plus en plus. Hein.
On reçoit quelqu'un qui nous demande si on a perdu la fraternité, si on l'a abandonné.
Non, pas du tout. Non. Mais les gens aussi, ils ont plus les moyens de donner aussi. Hein. Mais c'est pas que un ou deux, c'est plein. Ils viennent, voilà, vous n'aurez pas un euro ou deux. Je suis à la rue, j'ai pas mangé, j'ai dormi dehors cette nuit. C'est plein d'anecdotes comme ça, quoi. Excusez-moi de vous déranger, vous n'aurez pas un euro pour boire le café le matin quand il se lève. Et c'est pas que moi, c'est tout le monde est confronté à ce problème-là.
Et il me dit qu'il observe qu'il y a deux catégories pour lui de SDF, les Français et les migrants.
Oui, ils font de la peine, quoi. Il a traversé toute l'Afrique, presque. Il a traversé le Sahara algérien. Il fallait qu'il traverse la Méditerranée. Alors, il fallait qu'il travaille pendant je ne sais pas combien de temps en Tunisie pour faire un peu de sous pour le passage. Pour venir ici en France et tout ça, ça a été la galère. Pendant 3-4 ans de galère, quoi. Et ils sont arrivés ici, une main devant, une main derrière. Ils n'ont rien quand ils arrivent ici. Hein. Mais après, tu as les gens d'ici qui sont nés ici, qui sont français, qui n'arrivent plus. Personne n'arrive, quoi. Il y en a de plus en plus, il va en avoir de plus en plus. Hein.
Je continue de remonter cette même rue d'Aix quand je rencontre ce jeune homme qui fait la manche. Debout, il arrête les gens. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que je peux avoir votre prénom ?
Benjamin.
Benjamin, vous avez quel âge ?
J'ai 35 ans.
Qu'est-ce que vous faites en ce moment, vous ?
Bah rien. Je suis dans la rue.
Là, vous avez passé la nuit, cette nuit-là ?
En dessous, là-bas. Sous le porche. J'ai pas dormi.
Je découvre son visage. Souvent, on évite de regarder les SDF. Je sais pas, vous avez peut-être remarqué. Comme si c'était plus simple de pas mettre un visage. Lui, sous sa casquette et sa capuche noire, il a des yeux clairs et des cicatrices. On a pratiquement le même âge. Il a grandi à Lyon, il vivait chez ses parents. Puis la galère est venue petit à petit. Je lui demande comment il tente de s'en sortir, s'il y a des assauts et des mains tendues.
Ouais. Le bus 31-32. Et il y en a plein d'autres. Nouvelle Aube, il y en a plein d'autres. Si tu veux sortir de la merde, c'est une bonne ville. Je prends trop de drogue. Mais les gens comme moi, qui prennent trop de drogue, ben, Ils sont dans la rue. Quoi.
C'est la drogue qui est venue avec la rue.
Ouais. C'était pour essayer, c'était pour... Je pense à autre chose, quoi. Autre chose que la galère.
Et autre chose que la galère, la drogue vient souvent s'ajouter comme un pansement pour apaiser l'insupportable de la vie, parfois, certains dehors. Plus loin, Igor m'a vu discuter avec le micro France Inter.
Je trouve que c'est une des plus grandes injustices. Et je trouve qu'une des lois les plus intéressantes, malheureusement, je ne sais plus qui l'a fait voter, c'est la loi Dalo. La loi, le droit au logement opposable. Moi, j'ai été très longtemps chez Emmaüs. En tant que bénévole, et je trouvais que c'était quand même assez dingue que cette loi ne puisse pas être appliquée. Donc voilà.
La loi Dalo, droit au logement opposable, toujours en vigueur, hein, que l'on doit à Jean-Louis Borloo et Dominique de Villepin en mars 2007, à la fin du dernier mandat de Jacques Chirac. Elle permet à toute personne sans logement de faire valoir son droit à un logement décent auprès de l'État. Malheureusement, dans les zones tendues, sa mise en œuvre est quand même souvent problématique. Je demande à Igor ce qu'il a observé lors de ses nombreuses maraudes dans Marseille.
Ce que j'ai surtout noté, c'est que le corps est un poids énorme. C'est-à-dire que quand on est dans la rue, il faut se laver, il faut se nourrir. Et on voit justement la dégradation de ces gens-là dans la rue. Et je pense que restituer une apparence humaine à ces gens-là, parce qu'ils ont besoin d'être propres, de manger, etc., que ce soit plus ce poids-là, de plus avoir les mêmes vêtements, de plus avoir 10 000 sacs pour se déplacer, je pense que c'est l'urgence vitale. Voilà, donc pour ces gens-là en tout cas.
Alors qu'elle traîne derrière elle une grosse valise, je fais la connaissance de Shaïma. Le sans-abrisme, elle le voit.
Ben, c'est triste, moi j'habite à Paris et il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Il y en a pas mal en bas de chez moi que je connais et à qui je parle, mais la plupart des gens qui sont sans abri, je les vois à peine parce qu'en fait on passe devant et on les voit plus, quoi.
En bas de chez vous, c'est quoi les échanges avec les sans-abri ?
Bah, souvent quand je vais faire des courses, je leur achète des trucs, on se dit bonjour, on se raconte un peu nos vies. Bah ouais, je pense qu'on est devenu de plus en plus individuel et ouais, je pense qu'on a perdu un peu de ça, ouais. On pense un peu à nos gueules et du coup on les calcule plus, les gens dans la rue.
En retournant vers la gare, je repense à mes rencontres. Comment ne pas culpabiliser de participer aussi malgré moi à l'invisibilisation d'une partie de la société? Et pourtant, n'est-ce pas à l'État d'en porter la responsabilité? Est-ce qu'à force d'individualisme, pardon, on a perdu une part d'humanité? C'est ce que vous dites aussi dans le livre. Étrange époque où l'on scrute son nombril pendant que d'autres dorment sur le trottoir. Et si ces deux solitudes étaient plus liées qu'on ne veut l'admettre. Après tout, nombrilisme, ça rime avec sans-abrisme.
Merci Quentin. Florent Guyot, je voudrais qu'on revienne sur le témoignage de Benjamin qu'on a entendu dans le micro-trottoir. Il parle de sa consommation de drogue. Alors l'exemple de Benjamin, il vaut pour beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans la rue. On a le sentiment que la drogue, c'est un fléau qui s'ajoute à la misère. Est-ce que quand on est dans la rue, c'est toujours la même voie, la rue et la drogue ?
Les deux, en tout cas, sont liés. Le commerce de la drogue, je le dis dans le livre, c'est le commerce de la souffrance. C'est-à-dire que quand on est en souffrance, on peut être amené à consommer pour atténuer ses souffrances et pour tout simplement supporter un quotidien qui est devenu insupportable. De plus en plus, c'est la cocaïne qui est consommée aujourd'hui en France, soit en tant que cocaïne, mais beaucoup sous forme de crack, qui est un dérivé de la cocaïne. Et la cocaïne, c'est un stimulant. Et quand vous êtes à la rue la nuit, et ben prendre un stimulant, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre de vous tenir éveillé, d'éviter d'être violenté, de qu'on vous vole vos affaires et en fait finalement de passer la nuit.
D'ailleurs, il le dit, il a pas dormi.
Exactement. Et c'est souvent du fait de la consommation de stimulants. Et donc on voit bien que vie à la rue, dangerosité de vie à la rue et consommation de drogue peuvent venir de pair et parfois le premier entraîne le second et puis ensuite un cercle vicieux s'engendre parce que de consommation de drogue en consommation de drogue, il y a une désinsertion sociale qui peut engendrer et donc la vie à la rue qui devient de plus en plus problématique pour en sortir.
Est-ce que ça veut dire aussi que la drogue, ça enferme, si je puis dire, dans la rue ?
Ça y contribue et ça rend l'insertion encore plus difficile. Dans les centres d'accompagnement que nous opérons pour consommateurs de drogue, le temps est une donnée qui est fondamentale. Accompagner un consommateur de drogue à s'en sortir, ça prend énormément de temps. Il y a des personnes, je le dis dans le livre, pour lesquelles on a mis plusieurs mois pour arriver à savoir leur prénom parce qu'elles ont peur de le donner, de ne sachant pas ce qu'il en sera fait. Aujourd'hui, je le disais au tout début de notre échange, les politiques publiques sont beaucoup tournées autour de la notion de sécurité. On va contraindre les personnes, on va vouloir les forcer à arrêter de consommer, on va vouloir les obliger à se soigner. Et en matière d'addiction, rien ne vaut le fait que la personne soit volontaire pour s'en sortir si on veut que ça tienne dans la durée. Et donc ce qu'il faut, c'est du médico-social, c'est de l'accompagnement, mais c'est aussi du temps. Il faut accepter que ça prend du temps d'accompagner les personnes.
Je reviens juste sur Igor qui parlait à Quentin de la loi Dalo. Elle est encore en vigueur, cette loi ?
Elle est encore en vigueur. Elle permet de ce qu'on qu'on appelle de labelliser les personnes pour être prioritaires dans l'attribution d'un logement social. Alors après, toute la question, c'est y a-t-il suffisamment de logements sociaux ? C'est en fait ça le vrai fond du sujet de la loi Dalo. Mais oui, les travailleurs sociaux de l'ensemble de ce pays l'utilisent de manière à essayer de rendre les gens plus facilement accessibles, de rendre le logement social plus facilement accessible pour ces personnes. Il y a quand même quelques chiffres. La DIAL, qui est l'administration qui gère le logement et l'hébergement, publiait la statistique de 12 000 personnes sans abri qui ont accédé au logement social en 2024. C'est quand même 50% de plus qu'il y a 5 ans. Donc on voit quand même qu'il y a une dynamique. Mais ce qui bloque, c'est le nombre de logements sociaux.
France Inter.
Zoom Zoom Zen se penche aujourd'hui sur la question du sans-abrisme avec notre invité Florian Guyot qui sort un livre, La fabrique des précarités, c'est chez Flammarion. Mais avant, je vous présente un numéro d'équilibriste. Comment rire avec le sujet du jour ? Quelle blague ! Faire sur les sans-abri, est-ce qu'on peut rire de tout comme à l'époque de Coluche et des proches, celle qui s'est déjà faite surnommer la jeune Coluche sur les réseaux.
Oui, c'est vrai.
Bonjour Marie, c'est vrai.
Bonjour
Marie
Debray. Bonjour tout le monde. Alors je vais pas vous le cacher, mais passer d'un quiz sur Pornhub hier à un quiz sur les sans-abri aujourd'hui, il y a comme qui dirait un gap. Voilà, pas fastoche de faire le lien, donc je vais pas le faire le lien. Voilà. Après je pourrais faire un quiz crossover les sans-abri dans le porno, mais bon, il aurait fallu que je fasse des recherches approfondies. Bon, c'est pas mon genre. Alors c'est vraiment parti pour un Zoom Zoom test sur ces personnalités qui ont connu la vie dans la rue. Née au Canada, sur mon LinkedIn, il y a marqué acteur, humoriste, producteur, scénariste, peintre et sculpteur. Dès l'âge de 12 ans, je vis dans un fourgon quand mon daron se retrouve à Canada Travail. Je vais alors cumuler les petits boulots après l'école. À 16 ans, je suis déscolarisée pour bosser dans une usine de pneus et je débarque à Los Angeles 3 ans plus tard pour percer dans le stand-up. Non. 13 ans de galère plus tard, j'expose dans les comédies à succès. Je suis A. Keanu Reeves.
Ah.
B. Jim Carrey. C. Eddie Murphy.
Jim Carrey.
Oh. Et oui, réponse B, Jim Carrey.
Première bonne réponse, Cyril. Depuis trois jours.
De la semaine.
Mais bravo, en premier point, c'est magnifique.
Oui, Cyril.
Personnalité suivante. Aujourd'hui, je pèse 65 millions de dollars, mais je viens de loin. Moi aussi, j'ai tout plaqué à 16 ans pour tenter ma chance à Londres, mais j'ai galéré dans la musique. Précision, mon groupe ne s'appelait pas Intérieur Nuit. Entre une troupe de théâtre pour les cas sociaux, les petits boulots et quelques mois à dormir sur les bancs publics, je commence à vivre de ma passion. Si je débute dans le théâtre et le ciné indé, je perce à l'âge de 38 ans dans une des franchises les plus célèbres du cinoche. Je suis A. Keanu Reeves, peut-être. B. Tom Cruise. Si ça se trouve, c'est Daniel Craig.
C'est
Craig. Jamais. Ah. Ah, Manon, réponse C. Bravo, Daniel Craig.
Oui.
Daniel, dont on oublie un peu trop vite la prestation de Stormtrooper dans Le Réveil de la Force. C'est évidemment moi, Marie Debreuer, qui ai inséré cette référence dans le texte.
Alors... Tu as fait ça?
Oui, non, oui, pas du tout.
C'était une blague.
Ah, pardon, c'est de l'humour.
J'essaye parfois de mettre des petites touches d'humour.
Oui, vous êtes humoriste.
Ça, c'est notre métier.
Mais ouais, mais pas quiziste, apparemment.
Oh, mais si.
Allez, on continue. Top à la question. Née dans le Bronx, je vais financer très tôt mes cours de chant et de danse par mes propres moyens, puis jongler entre mon job de clerc de notaire le jour et danseuse la nuit dans des clubs de Manhattan. J'ai une quarantaine de films à mon actif, mais c'est en tant que chanteuse que je suis le plus connue, avec 75 millions d'albums vendus.
Sacrée
la personne la plus influente du monde en 2012. Je n'oublie pas que j'ai dormi dans la rue à l'âge de 18 ans. Je suis A. Jennifer Lopez. B. Madonna. C. Whitney
Houston. Madonna.
C'est moi qui dis.
Non,
Madonna. J'ai dit B en premier.
On dit quoi? C'est Cyril?
Madonna.
Eh ben, nickel, c'est pas du tout ça. C'était réponse A, Jennifer Lopez.
Mais non.
Bravo.
Jennifer Lopez.
Tout à fait. Jenny from the Blocks, qui a également été danseuse pour A. Julio Iglesias. B. New Kids on the Blocks. C. Janet Jackson.
C'est
B.
B, et bah chacun a mis une petite Rulio. Réponse. C'était les réponses B et C.
Oh,
pas de Rulio.
Pas dur.
On continue sur ce moment.
Oh, Rulio, il chante encore, Rulio Iglesias. Hein.
Je l'aurais bien vu danser.
On l'embrasse, allez.
On continue sur ce moment de détente bien sympatoche sur les sans-abri avec une déclaration dont il va falloir trouver l'auteur. Je ne dirais pas que j'étais SDF car je trouvais toujours un endroit où dormir, mais ce n'était jamais garanti. Sous Buckingham Palace, il y avait un arc avec un conduit d'aération chauffé. J'ai passé quelques nuits là-bas. J'avais nulle part où aller de 2008 à 2010, mais j'ai pris les choses en main. S'agit-il de A. Ed Sheeran, B. Robbie Williams, C. James Blunt.
C. Ah.
C.
Ah oui, c'est
Manon. Bravo, okay. Une descente aux enfers qui était liée à l'alcool pour Ed Sheeran. Ça a failli lui coûter sa carrière qui démarrait à peine. Écoutez ce désastre. Mais bravo Ed.
Qu'est-ce que c'est
pour ta... Je pense que c'était pas du tout la bonne musique.
Parce que je me reconnais à la foutue avec.
C'était vous qui m'entraîne. C'était Ed Sheeran à l'époque, c'était C'est Shape of You. Peut-être vous ne reconnaissez pas.
Ah oui,
bon, ça va l'oreille musicale.
Oui, ouais. Ouais. Absolument. Moi, je...
Le fail, merci. Bravo Ed pour ta résilience et bravo à... On me le dit pas dans l'oreille.
Ah bah, Manon,
c'est Manon qui a gagné, bravo.
Ah, merci.
Bravo.
Ah, les applaudissements, quand même.
Mérité.
Mérité, comme toujours.
Vous ne remerciez pas l'auditoire.
Non, je remercie Marie par contre. Et merci à tous, évidemment.
Très bien. On zoome cet après-midi sur le sans-abrisme avec le directeur général de l'association Aurore, qui accompagne les plus vulnérables vers leur autonomie. Florian Guyot, comment fonctionne votre association? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés?
C'est une association qui met en œuvre des politiques publiques et donc elle est financée par des subventions publiques qui viennent généralement de l'État ou selon les dispositifs qui peuvent venir des départements, des régions ou des communes. Et son objectif, c'est d'accompagner les personnes vers leur réinsertion à travers trois grandes missions. L'hébergement sous toutes ses formes, depuis les personnes qui sont à la rue jusqu'au logement. Le soin, on en a parlé, des addictions notamment. Et puis la réinsertion professionnelle, le travail.
Vous racontez des maraudes hein, auxquelles vous participez. Vous dites que ce n'est pas toujours simple de convaincre des personnes sans abri d'être mises à l'abri, même s'il y a une solution, ne serait-ce que temporaire. Pourquoi ils refusent parfois ?
Il faut s'enlever cette idée que les personnes sont dans la rue par choix. On l'entend de temps en temps. Les personnes sont à la rue parce qu'elles sont désinsérées, parce qu'elles ont une relation à la société qui est très particulière. Et donc, il faut arriver à faire comprendre que c'est aussi dans leur intérêt de se réinsérer et que la société, elle peut aussi leur ouvrir les bras et qu'ils ont aussi leur place dans la société. Et c'est d'abord d'arriver à les convaincre qu'ils ont une place alors qu'ils ont probablement passé toute leur vie à ce qu'on leur dise qu'ils n'étaient pas à leur place. C'est ça qui est difficile. Et ça, c'est le job des travailleurs sociaux et c'est un job qui est extrêmement difficile.
Manon.
Vous parlez d'un problème collectif, mais est-ce que individuellement, les Français sont quand même solidaires des sans-abri ?
Évidemment. Nous avons des milliers de bénévoles qui participent dans l'ensemble des associations, l'association Aurore, mais bien d'autres. Et il est toujours assez... étonnant de voir la réaction que nous vivons quand nous installons un centre d'hébergement, qui est souvent d'abord une réaction de rejet, faut bien le dire. Et puis au bout de quelques mois, c'est plutôt une réaction inverse, parce que le centre, il a pris son équilibre dans un quartier, et parfois on a beaucoup de bénévoles du quartier qui viennent contribuer à la vie du centre d'hébergement, y compris dans des quartiers comme le 16e arrondissement, où nous avons un centre qui est installé depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc oui, les Français peuvent être généreux à titre individuel, la question c'est comment est-ce que en tant que société, on fabrique une société qui permet d'accueillir les personnes les plus fragiles.
Cyril,
vous exprimez une question à travers le titre de votre livre. A-t-on abandonné la fraternité ? Pourquoi et comment on en est arrivé à abandonner pourtant ce qui est dans la devise française, liberté, égalité, fraternité ?
La question, c'est déjà... qu'est-ce que la fraternité? Comment est-ce que on comprend ce mot-là et qu'est-ce que ça dit d'une société ? Jacques Attali a cette formule... qui est de dire qu'il faut arriver à développer l'altruisme rationnel, c'est-à-dire cette idée qu'il ne s'agit pas de faire de la charité, il s'agit de construire un projet de société qui vise à aider les autres et à inclure tout le monde, parce qu'on a aussi son propre intérêt à ce que la société soit inclusive et soit ouverte à tout le monde. Et donc d'une façon générale, on a besoin d'empathie, on a besoin de lien social, on a besoin d'une société qui inclut. C'est ça la fraternité et c'est le contraire de l'individualisme. Et c'est probablement là l'un des drames majeurs de la société d'aujourd'hui, c'est que plutôt que de se penser comme une société à part entière, on se pense comme une juxtaposition d'individus. C'est ça l'individualisme. Et toute l'idée de la fraternité, c'est exactement le contraire. C'est de se penser tous ensemble avec ses différences, avec des gens qui sont bien, qui sont pas bien, qui sont intégrés, qui sont différents, qui ont des parcours, qui ont des origines. Et il faut accepter ces différences. C'est ça qui fait qu'une société fonctionne.
Vous n'êtes pas que dans le constat, vous avez aussi des propositions. Trois axes, briser le cycle de la peur de l'autre, agir sur la prévention et changer de méthode. Concrètement, comment on arrive à faire tout ça ?
Il faut arriver vraiment à travailler sur un projet de société qui soit une société inclusive, qui pense ses marges, c'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui sont aux marges de la société pour plein de raisons, et donc il faut qu'on arrive à construire une envie collective d'intégrer ces marges. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre. Et donc ça passe ici par trois grandes familles de propositions. Briser le cycle de la peur, ça veut dire, notamment vis-à-vis des étrangers, arrêter d'en faire des boucs émissaires de tous les maux de la société, mais construire des dispositifs de prise en charge qui réhumanisent les gens, qui leur redonnent de la dignité. Pourquoi ? Parce que quand vous croisez un sans-abri dans la rue, quand vous voyez des campements, quand vous voyez des personnes que vous avez interrogées à Marseille, ils sont tellement différents de vous au bout d'un moment, vous ne pouvez plus vous identifier à ces personnes et on a peur de ceux envers qui on ne peut pas s'identifier. C'est ça le cycle de la peur. Et ce cycle de la peur, il est aggravé par l'indignité dans laquelle les personnes vivent. Donc il faut lutter contre l'indignité dans laquelle vivent les gens.
Je rappelle votre livre « La fabrique des précarités, a-t-on abandonné la fraternité ?» C'est aux éditions Flammarion. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Manon Mariani, chaque jour, vous prenez le temps de pousser le curseur un peu plus loin si on veut prolonger sur le thème des sans-abri. C'est sur TikTok que vous avez trouvé la personne à suivre.
Je vous présente Jimmy Kellogg. Il a 29 ans. Il est américain et c'est une véritable star de TikTok où il compte plus de 12 millions d'abonnés. Son pseudo, c'est Jimmy Darts. Et s'il a réussi à se faire une place, c'est avec un concept et surtout une philosophie assez rare sur l'application, le partage. Jimmy sillonne les rues d'Amérique, souvent dans des quartiers défavorisés, pour tendre un micro à ceux qu'on ne regarde plus. Ça peut être des sans-abri, des marginaux, des personnes seules aussi dans la rue. Il veut renouer le dialogue et faire connaître des histoires de vie qui peuvent conduire à la précarité.
It's been hard to pay the bills.
Yes, pay the bills, pay the rent.
Sometimes.
C'est dur de payer les factures, c'est dur de payer le loyer, parfois c'est dur de se lever le matin. Là par exemple, vous entendez Benji, un Américain de 60 ans en fauteuil roulant, obligé de cirer des chaussures à la sortie d'un supermarché pour se faire de l'argent en plus. Et Jimmy Darts fait bien plus que juste l'interviewer. Derrière, il lui donne de l'argent, $500 pour l'aider. Pour Benji, il est même allé jusqu'à créer une cagnotte pour que ses abonnés fassent des dons. Résultat, plus de $23,000 ont été collectés. Jimmy veut apporter un peu de douceur et des contenus feel good. Son objectif n'est pas de magnifier la misère, mais plutôt de faire plaisir à ceux pour qui un billet ou une bonne action peut faire la différence. Et puis, il prend le temps de parler avec ces personnes. Il écoute, il partage des repas, il crée du lien. Il va même parfois jusqu'à reloger des personnes sans domicile ou leur trouver un emploi grâce à sa communauté. Il fait partie de ceux qu'on appelle les kindness influenceurs, les influenceurs gentillesse. Alors, évidemment, je ne suis pas naïve, on reste sur du contenu fait pour faire pleurer dans les chaumières avec la petite musique triste derrière qui accompagne. On peut supposer aussi que les personnes sont choisies avant et qu'ils ne tombent pas par hasard sur eux dans la rue. Et puis, évidemment, Jimmy Darts gagne aussi sa vie avec ses vidéos. En quelque sorte, il se fait de l'argent sur la misère des gens. Mais est-ce qu'il ne faut pas saluer tout de même l'initiative ? Après tout, il aide réellement des personnes dans le besoin qui sont manifestement heureuses d'avoir croisé sa route.
Merci Manon. Florent Guyot, en un mot, alors évidemment il fait du business ce garçon, mais est-ce que ce genre de profil, ça permet aussi de remettre les sans-abri dans le radar, j'allais dire, de tout le monde?
En tout cas, raconter le parcours des gens et les donner à voir est un bon point de départ. Je crois vraiment que, et c'est ce que j'ai voulu faire dans le livre, c'est-à-dire raconter autant que possible le parcours des personnes que nous accompagnons pour, je l'espère, faire comprendre que ces parcours sont difficiles et que parfois, il y a des personnes très insérées qui finissent par être désinsérées. Et puis, il y a le chemin inverse aussi qui sont possibles. On a beaucoup de belles histoires. Et donc, en montrant que la société est faite de parcours aussi divers, peut-être qu'il y a un point de départ.
France Inter. Zoom Zoom Zen, Manon Mariani, Quentin Lee, Cyril Lacarrière.
Il y a bien une chose que Pierre Courade a appris avec l'abbé Chibrard, c'est d'avoir le cœur sur la main.
Et pas que là.
Dès son plus jeune âge, il allait faire des distributions à l'église pour aider ceux dans le besoin. Mais depuis, il est arrivé à Paris et toutes ses bonnes manières se sont perdues. Il est devenu tellement snob qu'il nous oblige à dire qu'il habite dans le 11e arrondissement, alors qu'on sait tous qu'il habite dans le 20e arrondissement.
Mais ce n'est pas vrai.
Pierre Courade, bonjour.
Bonjour Manon, bonjour à tous. J'aime beaucoup le 20e, mais malheureusement, je n'habite pas dans le 20e.
Oui, oui, on en reparlera. Tout ce qu'on s'est dit résumé en une minute chrono.
Le sans-abrisme, c'est le terme que nous a explicité notre invité Florian Guyot, directeur général de l'association Aurore qui vient en aide aux plus vulnérables. Pour Florian Guyot, au-delà du simple constat, oui, il y a des sans-abri, la question est plus globale, sociétale. C'est ce qu'on appelle le sans-abrisme. Il en parle comme d'une mécanique, une fabrique de la précarité avec plusieurs rouages qui concourent pour maintenir des personnes à la rue. L'aide à l'enfance, par exemple, elle laisse des jeunes adultes sans ressources livrés à eux-mêmes. Un quart des moins de 25 ans qui dorment dehors viennent de l'ASE ou des foyers d'accueil. Autre facteur du sans-abrisme, la lenteur pour diagnostiquer les troubles mentaux et un accompagnement accompagnement défaillants qui peuvent conduire à des pertes de logement. Sans oublier le manque de considération pour les étrangers et demandeurs d'asile en particulier, un tiers se retrouve à la rue, une situation qui va à l'encontre de la théorie de l'appel d'air. En résumé, le sans-abrisme est la conséquence d'un manque de coordination entre les services publics et d'un discours plus sécuritaire que social. Mais il y a une solution, briser le cycle de la peur de l'autre et retrouver un peu plus de fraternité.
Eh bien, très beau petit carnet. Merci
c'est
Pierre.
Bon, bouche en coin. Non, c'était beau.
Bah ouais, c'était bien. Merci beaucoup Pierre. Il est maintenant l'heure d'accueillir Michel qui n'est pas tout à fait d'accord avec tout ce qu'on le dit depuis une heure. C'est parti pour le contradictoire.
Donc bonjour. Donc effectivement, je ne suis pas d'accord, puisque c'est facile hein, de parler des sans-abri, mais est-ce que vous savez combien ça coûte d'être multipropriétaire aujourd'hui?
Multi, non, mais dites-nous.
Beaucoup, beaucoup d'argent, messieurs, dames. Je vais quand même pas vous présenter mes comptes en banque. De toute façon, il y aurait pas la place sur votre table en bois aggloméré plaqué.
Très bien. Nous allons tenter de rester calmes et de trouver des points positifs. Mm-hmm. Vous êtes vous-même propriétaire de logements que vous louez?
Que j'ai souhaité. Loué, ah. Oui. Mais j'ai regardé les reportages 90 minutes. Trop de locataires qui ne payent pas leur loyer, donc je préfère les laisser vacants. Je pratiquais le Airbnb, mais depuis qu'on peut louer uniquement 90 jours les meublés touristiques, bon... Voilà. Ma sœur a 3 Airbnb, ça se passe bien, tant mieux pour elle. Moi, j'ai 13 immeubles vacants, mais dans des endroits stratégiques.
Stratégiques.
Allons, avec de grandes possibilités de plus-value.
Il semblerait que le nombre de logements vacants soit particulièrement élevé dans les arrondissements centraux et aisés tels que les premiers 6e, 7e et 8e. Ce chiffre peut atteindre les 30%. Qu'en pensez-vous?
Alors là, ça fait sens ce que vous dites, parce que oui, le prix au mètre carré il est très cher, hein, très très bon placement, je le sais. J'étais à ça de signer une vente avec un Américain, puisqu'on leur revend le triple, et les mairies, là, viennent pas nous enquiquiner dans ces quartiers pour transformer les apparts en logements sociaux.
Mais justement, quand vous voyez qu'en France, environ 330 000 personnes sont sans domicile personnel et que seulement à Paris, près de 262 000 logements étaient inoccupés. Ça vous choque pas?
Alors, déjà, comment voulez-vous que je le sache? C'est-à-dire que moi, le matin, je regarde la météo, hein, pas les chiffres du sans-abrisme. Et si ça peut vous rassurer, quand je vois des bénévoles dans la rue, je leur donne une pièce hein, pour la Croix-Rouge. Enfin, quand j'avais de la monnaie, là, je n'en ai plus depuis belle lurette. D'ailleurs, quand je croise un sans-abri, je lui dis de se fournir un TPE.
Oh
moi, j'évolue avec mon temps. Et à mon sens, il devrait faire pareil.
Mais vous n'avez jamais rendu service à quelqu'un en louant l'un de vos appartements?
Alors, j'en ai eu la volonté et c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, je vais vous raconter pour effacer votre jugement. Il y a quelques années, une connaissance m'appelle pour me parler d'une femme intermittente du spectacle. Je crois qu'elle faisait du stand-up. Ça faisait 2 mois qu'elle n'avait plus de domicile à cause d'une histoire de souris ou punaise de lit ou je sais plus de nuisible, voilà. Donc je lui dis avec toute ma grandeur d'âme, hein. Alors ok, j'ai une chambre de bonne, mais il faut qu'elle mette sous séquestre un an de loyer, ce qui représentait uniquement 10 000 euros. Et sous séquestre, un pas sur mon compte, qu'on s'entende. Et moi, les intermittents, chacun sa croix. Il lui fait part de ma proposition honorable, hein, 10 000 euros et un coup de peinture, hein, soi-disant que sa banque lui a répondu que c'était possible à partir du moment où elle bloque le même montant en assurance vie. Donc, reprenons, moi j'acceptais hein, de lui louer mon appartement, oui. Mais elle n'avait pas les fonds. Elle n'avait pas les fonds et moi je ne peux pas être plus généreuse que ça.
Mais si vos appartements restent vides des mois, vous n'avez pas peur qu'ils se dégradent?
Si, et c'est pour ça que j'ai installé des portes anti-squat.
Contradictoire intéressant, avec des arguments bien réfléchis. Merci Michel, et surtout merci Daniel Dutel. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Merci Florian Guyot d'être venu nous sensibiliser au sans-abrisme et de rappeler l'importance de la fraternité.
Merci à vous.
On retrouve votre livre aux éditions Flammarion, La fabrique des précarités. A-t-on donc abandonné la fraternité ? Je rappelle que vous êtes aussi le directeur général de l'Aurore.
Zoom Zoom Zen.